Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Ah, si du moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant, tout cela est caché à tes yeux. Mes très chers frères, en ce 9e dimanche après la Pentecôte, notre Seigneur pleure sur Jérusalem. Et il pleure en annonçant sa ruine prochaine, en voyant sa ruine prochaine. Et il se trouve qu'aujourd'hui, par une coïncidence de calendrier, c'est aujourd'hui même que les Juifs pleurent et jeûnent en mémoire de la destruction du Temple. C'est ce jour même. Donc, ce que nous allons avoir aujourd'hui, mes très chers frères, c'est la signification de ces larmes de notre Seigneur. Notre Seigneur pleure, et nous savons que notre Seigneur n'a jamais ri, mais il a pleuré plusieurs fois, et c'est mentionné dans l'Évangile. Ah, si du moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Il y a plusieurs choses à voir. Premièrement, que ce ne sont pas des pleurs ou des larmes d'impuissance, mais ce sont des larmes de compassion du Dieu très juste. Ensuite, nous avons à voir comment le pécheur ne fait qu'accomplir sa volonté propre en mettant un comble à son iniquité. Et enfin, nous nous poserons la question, comment être sauvé? Et nous y répondrons, non pas nous, mais l'Église. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
En ce temps-là, Jésus, qui était arrivé aux abords de Jérusalem, voyant la ville, pleura sur elle en disant « Ah, si du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. » Le contexte de cet évangile, mes très chers frères, c'est le dimanche des Rameaux. C'est l'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem, acclamé par la foule comme roi Messie, avec les cris de « Hosanna ». Benedictus qui venit in nomine Domini, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ contemple la future ruine de cette ville glorieuse. Un auteur nous dit, il verse des larmes de compassion et déplore cet aveuglement volontaire qui l'empêchait de jouir d'un temps si favorable à son salut. Il savait ce qui allait se passer. Sous un certain rapport, cela était providentiel, puisqu'il devait être jeté par son peuple, afin que les nations qui ne méritaient pas le salut puissent accéder au salut. C'était providentiel, parce qu'il fallait qu'il en soit ainsi. De toute éternité, Dieu avait, ou en tout cas depuis la chute, Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi. Et de toute éternité, l'agneau de Dieu qui est immolé. Il se trouve, mes très chers frères, que notre Seigneur, pleurant sur cette ville, manifeste une tristesse qui est la tristesse divine du Messie qui voit son peuple le rejeter. La question qui nous vient à l'esprit est la suivante. Ne pouvait-il pas leur inspirer une compunction? Ne pouvait-il pas leur ouvrir les yeux afin qu'ils changent leur voie et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et qu'ils accueillent et qu'ils reconnaissent le Messie? C'est une question que nous pouvons nous poser, c'est une question qu'un auteur se pose, c'est pour ça que je la pose. C'est aussi une question qui provient d'une certaine manière de la limitation de notre intelligence. Vous voyez, d'une certaine manière, lorsque nous voyons notre Seigneur pleurer, nous nous disons, il pourrait ne pas pleurer s'il faisait quelque chose. Donc nous sommes dans des sentiments contraires, et oui, complètement opposé à ce que l'Évangile veut nous inspirer en nous rapportant ces faits. En étant arrivé aux abords de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Notre Seigneur pleure sur la ville de Jérusalem, et si nous avons dit à plusieurs reprises, et cela est vrai, que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, il n'en reste pas moins, puisque c'est un psaume qui le dit, il n'en reste pas moins qu'il y a une logique dans l'action de Dieu. Il y a une certaine logique qui, pour une partie, nous échappe, et pour une autre partie, nous est compréhensible. Et c'est cette partie compréhensible que nous devons examiner aujourd'hui avec l'aide de Dieu. Ne pouvait-il pas leur inspirer une contrition, une compunction qui les fit revenir de leur mauvaise voie? Il le pouvait certainement, nous dit un auteur. Il le pouvait certainement. Tout est possible à Dieu. Il aurait pu descendre de la croix et toucher le cœur des pharisiens et des grands prêtres, des prêtres, et les convertir. Il aurait pu. Si nous disons « il n'aurait pas pu », nous mettons Dieu dans une situation de nécessité, c'est-à-dire qu'il est, par un certain côté, impuissant. Donc, il le pouvait certainement. Il pouvait certainement ouvrir les yeux des Juifs et leur inspirer des sentiments conformes à la vérité. Il le pouvait certainement. Mais, continue l'auteur, l'abus même qu'ils avaient fait de tant de grâce les en rendait indignes. Ils avaient comblé la mesure de leur propre iniquité, et rien ne nous paraît plus terrible que ces larmes du Fils de, que ces larmes que le Fils de Dieu répand sur les âmes qui, comme Jérusalem, sont arrivées par divers degrés au terme de leur réprobation et ont mérité qu'il les abandonne à leurs ennemis. L'homme est comme un jeu, comme un jouet entre les mains de Dieu. Cela est vrai. Le cœur du roi est dans la main de Dieu, dit le proverbe. Cela est vrai. Maintenant, il se trouve que l'homme, par un certain côté, n'est pas simplement une sorte d'hologramme, si l'on peut dire, auquel Dieu fait faire ce qu'il veut. Ce n'est pas aussi simple que ça. L'homme est une créature raisonnable, c'est le chef-d'œuvre de la création de Dieu, et l'homme, par un certain côté, possède ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de faire des choix. Cette possibilité, il l'avait avant la chute, et c'est pour cela qu'il a pu choisir d'écouter le serpent, et cette possibilité, il continue à l'avoir après la chute, puisque c'est une des choses qui caractérise la créature rationnelle. Maintenant, d'une certaine manière, c'est une chose que d'affirmer, contrairement à certains hérétiques qui disaient « l'homme n'a plus de libre arbitre ». C'est faux, c'est faux. Maintenant, il a son libre arbitre, maintenant, est-il capable de l'utiliser droitement? Ça, c'est autre chose. Vous voyez, c'est un raccourci désastreux que de dire « l'homme n'a plus de libre arbitre ». C'est faux. C'est une conclusion tout aussi désastreuse que dire « l'homme a son libre arbitre, donc, du coup, il peut faire ce qu'il veut ». C'est tout aussi faux. Pourquoi? Parce que les uns, en quelque sorte, les premiers, se trompent quant aux effets de la chute. La chute n'a pas enlevé à l'homme son libre arbitre. Et les autres se trompent aussi quand, en minimisant les effets de la chute. La chute n'a pas enlevé à l'homme son libre arbitre. La seule chose, l'homme ne peut plus vouloir maintenant spontanément et librement que ce qui lui est contraire, que ce qui lui est mauvais. Puisqu'il a perdu l'état d'innocence, il a perdu la normalité de sa nature. L'état d'innocence n'est pas quelque chose de surajouté à sa nature, c'est quelque chose de surajouté à sa nature qui faisait que sa nature était conforme, agissait conformément à sa propre fin. L'état d'innocence ayant été perdu, l'homme ne s'est pas retrouvé simplement humain, il s'est retrouvé infra-humain. Il y a deux choses à considérer ici, mes très chers frères. Deux choses, et l'Église nous demande un petit peu de gymnastique mentale, mais il le faut, sinon nous resterons tout le temps dans l'ignorance, et l'ignorance mène à l'erreur, et l'erreur, quand on la soutient avec opiniâtreté, mène à l'hérésie. Il y a deux choses à considérer. Premièrement, l'honneur que l'on doit rendre au Christ en tant que fils de Dieu, roi universel. Et deuxièmement, la deuxième chose à considérer, c'est la puissance de la rédemption, accomplie par le Christ à la croix. Premièrement, l'honneur que l'on doit au Christ, et deuxièmement, la puissance de la rédemption. Il y a une façon de dire, mes très chers frères, il y a une façon de dire que le Christ est mort pour tous les hommes, qui relève d'une certaine forme de semi-pélagianisme. En soi, cela est vrai, puisque ce sont des propositions que l'on trouve dans l'Écriture sainte. Donc cela est vrai, on ne peut pas dire que celui qui dit cela est à tort. La seule chose, il y a une façon de dire la vérité qui correspond à l'erreur. Vous voyez, une façon de tirer des conclusions d'une parole infaillible révélée par Dieu dans l'Écriture qui mène à une erreur, qui mène et qui constitue une erreur. Comment est-ce que c'est une erreur? Eh bien, c'est quand on s'imagine que le Christ a ouvert une possibilité de salut pour tous les hommes, vis-à-vis de laquelle il est passif. C'est-à-dire que Dieu propose, l'homme dispose. Ça, c'est du semi-pélagianisme, c'est même du pélagianisme, c'est une erreur fondamentale. Alors, vous allez dire, pourtant, il y a quelque chose de vrai. Il n'y a pas d'erreur absolue, il y a toujours quelque chose de vrai dans tout, même dans le pélagianisme. Ce qui est vrai, c'est que l'homme doit faire un choix. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce qui est faux, c'est que Dieu et le Christ sont passifs, est passif vis-à-vis du choix que l'homme fait. L'homme doit faire un choix, l'homme peut faire un choix. Jusque-là, pélagiens et orthodoxes sont d'accord. Maintenant, il se trouve que comment l'homme peut-il faire un choix? Les pélagiens disent en appliquant sa raison, sa sensibilité, etc., à reconnaître que ce que le Christ lui propose est le meilleur pour lui. L'orthodoxe dira, quand l'homme reçoit la grâce de pouvoir faire un choix conformément à ses intérêts éternels. Vous voyez, la différence, pour quelqu'un qui ne serait pas attentif, la différence est minime. En réalité, c'est toute la différence entre l'orthodoxie et l'hérésie. Deux choses étaient à considérer, disions-nous, l'honneur que l'on doit au Christ et la puissance de la rédemption accomplie par le Christ à la croix. Tous les hommes doivent rendre hommage au Christ. Tous les hommes doivent se soumettre à Dieu, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non. Nul n'est censé ignorer la loi, de telle sorte que ceux qui meurent sans connaître le Christ, ceux qui meurent sans être baptisés, ceux qui meurent sans avoir la foi, l'espérance et la charité, ne peuvent pas être réputés sauvés, quelque pieux qu'ils soient, quelque honnête qu'ils soient, quelque observant la loi naturelle qu'ils soient, ils ne peuvent pas être réputés sauvés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule, un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, et c'est le nom de notre Seigneur Jésus. Si l'on est bon sans connaître le nom de notre Seigneur Jésus, on ne peut pas être agréé par Dieu. Car Dieu veut bien sauver les hommes, sauf qu'il ne les sauve que dans le Christ, son Fils. Donc, tous les hommes doivent rendre honneur au Christ, doivent croire en lui. D'un autre côté, la puissance de la rédemption accomplie par le Christ à la croix est virtuellement infinie. Comme le dit saint Thomas, il dit « une seule goutte de sang versée par le Christ à n'importe quel moment de sa vie aurait été est suffisante pour accomplir la rédemption du monde entier. » Maintenant, il se trouve que le monde entier n'est pas sauvé, seulement une partie, et aujourd'hui, un fragment. Comment cela se peut-il? Est-ce que Dieu connaît un échec dans sa proposition, dans son plan de salut? Est-ce que la proposition de Dieu est mise en échec par la mauvaise volonté de l'homme, qui est trop, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, qui est influencé par les contrôles mentaux de masse, par les menées subversives de tel ou tel, par les mensonges de tel ou tel groupe de gens en modernité qui discréditent le Christ? Du coup, évidemment, tout le monde fait des mauvais choix. Tant pis pour Dieu. Et puis on en arrive même à penser qu'ils l'ont découronné tellement ils sont puissants. Donc vous comprenez que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Ou bien Dieu est mis en échec, ce qui n'est pas possible, ou bien Dieu fait ce qu'il veut. Mais cela n'empêche que tous doivent rendre honneur au Christ. Donc la puissance de la rédemption est absolue, suffisante pour sauver tous les hommes. Tous les hommes doivent rendre hommage au Christ. Mais il se trouve que seuls ceux auxquels Dieu donne sa grâce la reçoivent efficacement. La chute a rendu tous les hommes indignes de Dieu. Mais la chute n'a pas enlevé aux hommes le devoir ou la nécessité d'obéir à Dieu. La rédemption s'accomplit selon le dessein secret du Père, qui a donné certains à son Fils et a laissé les autres suivre, quoi donc, la pente naturelle de leur libre arbitre. L'homme fait exactement ce qui lui semble bon. Personne ne le contestera jamais. Dieu laisse faire à l'homme tous les choix que son libre arbitre est capable de lui faire faire. La seule chose, c'est un homme déchu. C'est un libre arbitre totalement libre, mais libre uniquement pour ce qui ne relève pas, ce qui ne n'est pas du ressort de l'état d'innocence, c'est-à-dire de l'état où l'homme peut vraiment agir conformément aux exigences de sa finalité surnaturelle. Tous les hommes sont libres, ils sont libres de faire le mal, et Dieu, qui n'a pas créé l'homme ainsi, est attristé par cette réalité. Voyez, si j'osais une comparaison avec le monde naturel, je dirais que un peintre qui a peint un grand nombre de beaux tableaux et dans l'atelier duquel son ennemi est arrivé et a jeté un certain nombre de taches de peinture sur un certain nombre de ces, sur tous les tableaux. Il a détruit en quelque sorte l'œuvre magnifique de ce peintre. Ce peintre, que va-t-il faire? Il va dire, je vais nettoyer un certain nombre de toiles, je vais jeter les autres. Pourquoi? Pour diverses raisons qui sont sans importance pour notre comparaison. Je vais nettoyer un certain nombre de toiles, je vais jeter le reste. Mais ce sont mes toiles, et ça me fait de la peine de les jeter. Alors on va dire, pourquoi est-ce que vous ne les nettoyez pas? Pour diverses raisons, après tout, le peintre fait ce qu'il veut. Peut-être que le peintre humain voit que certains tableaux sont trop tachés, trop endommagés, il ne peut pas les rattraper. Dieu a des raisons qui nous dépassent. Il se trouve que le peintre a sincèrement de la peine de devoir se défaire de ces tableaux qui ont été salis par son ennemi. Il a sincèrement de la peine. Et même lorsqu'il les met à la benne, il verse des larmes en disant « Tout ce travail que j'ai fait, toutes ces heures à manier avec art la peinture, tout ceci, en quelque sorte, a été maintenant... est en voie d'être détruit. » Et il pleure des larmes. Et ce sont des larmes sincères, même si c'est lui-même qui jette ces tableaux. Évidemment, c'est une comparaison, et toute comparaison tirée de choses naturelles a des limites quand il s'agit de faire des comparaisons pour comprendre certaines choses divines. Néanmoins, il y a quelque chose de vrai, me semble-t-il. Le Christ, voyant Jérusalem, pleura sur elle des larmes de compassion. Il aurait pu l'illuminer, et il ne l'a pas fait, et la raison, pour diverses raisons, et la raison que nous donne l'Église, les théologiens, le consensus des théologiens, est la suivante, c'est parce que ce peuple avait accumulé tant de prévarications. Pendant la vie temporelle du Messie, il avait fait un si mauvais usage des grâces qui lui avaient été faites, qu'il avait mis un comble à ses iniquités et il avait mérité d'être châtié. Alors vous allez dire, il y a certaines personnes qui mettent iniquité sur iniquité et qui pourtant sont sauvées par Dieu. Un saint Paul, par exemple, avait très mal commencé dans sa vie. Il était un persécuteur acharné de l'Église, à tel point que même il outrepassait les droits, si l'on peut dire, du Sanhédrin, puisqu'il faisait mettre à mort des gens, alors que dans l'histoire de la Passion du Christ, nous voyons que les Juifs disent « nous n'avons pas le droit, parce que nous sommes en régime, disons, de semi-liberté, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort ». Vous voyez, donc, il arrivait quand même. On pourrait dire, pourquoi est-ce que Dieu lui a fait grâce et qu'il n'a pas fait grâce à Jérusalem? Bon, déjà, la question, nous ne sommes pas ici pour scruter les desseins éternels de Dieu, mais disons, il y a une certaine disproportion. Premièrement, on ne peut pas comparer un peuple avec un seul individu. Ensuite, cet homme devait passer par cette phase de persécution de l'Église pour avoir un sujet d'humilité et d'humiliation perpétuelle durant sa vie. Il a reçu de tellement grandes révélations qu'il fallait bien que Dieu lui mette une écharpe dans la chair pour qu'il puisse combattre efficacement l'orgueil. Jérusalem, c'est-à-dire le peuple juif, cela faisait 2000 ans que Dieu le conduisait par ses voies. Il leur avait beaucoup pardonné, beaucoup de prévarications, mais au bout d'un certain temps, nous savons que ceux qui cultivaient la vigne ont rejeté le fils de l'héritier du propriétaire, l'ont jeté hors de la vigne et l'ont tué, afin de pouvoir s'emparer de sa vigne. D'ailleurs, il y a un grand problème chez les Juifs actuellement, c'est qu'ils ont de la peine à définir la raison ou la cause pour laquelle Dieu a détruit le temple. Avant, autrefois, nous savons, lors de la première destruction du temple, c'était à cause de la prévarication, tout le monde est d'accord, eux-mêmes reconnaissent que c'était parce qu'ils étaient idolâtres. Mais là, ils n'étaient plus du tout idolâtres, ça faisait même des centaines d'années qu'ils n'étaient plus du tout idolâtres, ils n'étaient même plus tentés par l'idolâtrie. Alors ils vous diront, c'est parce qu'il y avait des dissensions, certains vous disaient, c'est parce que les Juifs disaient du mal de leurs frères, etc. Ce qui, ce sont toujours des péchés dignes d'être châtiés, mais enfin quand même, c'est un châtiment terrible, terrifiant. Nous savons que le temple, la Jérusalem, la ville sainte, a été détruite à cause du fait que le Messie a été rejeté. Maintenant, il se trouve, mes très chers frères, que pour nous, nous ne devons pas accabler univoquement ce peuple en disant « c'est bien fait pour lui », etc. D'ailleurs, ce n'est pas exactement ce qu'il faut dire, puisque nous avons profité, nous avons bénéficié de sa mise à l'écart, comme nous dit saint Paul, afin que nous ne nous en organisions pas. Maintenant, il se trouve que pour nous, c'est exactement la même chose. Vous voyez, si nous utilisons notre libre-arbitre pour faire le mal, alors il se trouve que nous mettons un comble, petit à petit nous mettons un comble à notre iniquité, et Dieu nous châtiera. Nous y reviendrons dans un instant. Nous disions donc qu'il y a plusieurs choses à considérer dans les raisons du non-salut que Dieu, de l'absence de salut que Dieu manifeste pour certains, nonobstant l'immensité et l'absoluité de la puissance de la rédemption. Écoutez ce que dit l'introït. Voici que Dieu me vient en aide et que le Seigneur se fait le soutien de mon âme. Faites retomber le mal sur mes adversaires et, dans votre fidélité, anéantissez-les, Seigneur, qui me protégez. Ô Dieu, par votre nom, sauvez-moi et par votre puissance, rendez-moi justice. C'est un psaume de vengeance. Et les psaumes de vengeance, nous savons que ce sont des psaumes qui sont particulièrement appropriés au Messie. Nous savons que notre Seigneur a été conduit à la croix, au supplice, comme une brebis qui se tait devant ceux qui la tondent. Nous savons aussi que le Verbe éternel de Dieu, lorsqu'il est insulté par les hommes, crie à son Père afin d'obtenir vengeance. Pourquoi ? Parce que l'infinie majesté de Dieu, qui est dans son Fils, dont son Fils est revêtu, ne peut pas souffrir d'être univoquement insulté. Elle peut le souffrir un temps, et c'est le temps de la miséricorde, le temps de la grâce, mais elle ne peut pas le souffrir absolument. Notre Seigneur, après que Judas l'ait trahi, ne lui a pas dit « Bon, c'est pas grave, je te pardonne, reviens. » Notre Seigneur, après que Saint-Pierre l'ait renié, l'a regardé et lui a inspiré la contrition. Vous allez dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas réprouvé Saint-Pierre, ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé Judas ? Si j'osais donner une amorce de réponse, et surtout ne croyez pas que c'est une réponse absolue, c'est une amorce rationnelle de réponse, c'est que dans le crime du reniement et de la trahison du Christ, dans lequel plusieurs personnes ont trempé, Saint-Pierre, Judas, on pourrait même dire un petit peu les autres apôtres qui se sont tous enfuis en une seule fois lorsque notre Seigneur les soldats ont mis la main sur notre Seigneur, dans ce grand crime de la trahison de notre Seigneur, Dieu voulait faire éclater sa miséricorde sur le plus grand nombre, mais le Dieu infiniment juste requérait aussi une compensation. C'est-à-dire que Judas a en quelque sorte, attention, je le dis d'une façon fragmentaire, mais Judas a en quelque sorte été puni pour tous les autres, alors que les autres ont reçu miséricorde. Alors, il ne faut pas surtout en conclure, ou en, comme certains, une sorte de fonction rédemptrice de Judas. C'est absolument faux. Dieu aurait pu aussi pardonner à Judas. Il ne l'a pas fait, pourquoi ? Eh bien, autre amorce de réponse, c'est que probablement, s'il avait pardonné à tout le monde, à Judas, à Saint-Pierre, aux apôtres, à Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean qui dormaient dans le jardin, s'il avait pardonné à tout le monde, on aurait pu penser, des hérétiques ou des gens pieux, auraient pu penser qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Si Dieu pardonne à tout le monde, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Un auteur du XIXe siècle, un dandy absolument impénitent, disait « c'est normal que Dieu pardonne, c'est son métier ». Dieu pardonne à qui il veut. Saint-Pierre n'est pas très différent de Judas. Bon, déjà ce sont des apôtres, tous les deux. C'était des évêques. Si Judas avait vécu, il aurait été un chef de file d'une succession apostolique. Judas a vendu notre Seigneur. Saint-Pierre a dit, en quelque sorte, qu'il le leur abandonnait parce qu'il ne voulait rien avoir à faire avec lui, qu'il ne le connaissait pas. Il y a une différence quand même, mais enfin, la différence est relativement minime. Ce sont deux personnes qui lâchent notre Seigneur, si j'ose dire. Donc, le crime de Saint-Pierre est légèrement moins grave que celui de Judas. Mais je dirais, celui de Judas est à peine plus grand que celui de Saint-Pierre, sachant que Judas est revenu au temple, qu'il a jeté l'argent par terre et leur a dit « j'ai commis un péché, j'ai livré le sang innocent ». Si j'ose dire, d'une façon simplement rhétorique, Saint-Pierre, après avoir été sorti en pleurant, n'est pas revenu en disant « oui, j'ai dit un mensonge, je le connais ». Il est parti, il n'a rien dit. Donc, d'une certaine manière, on trouve paradoxalement plus d'actes de contrition, de digne œuvre de repentance chez Judas que chez Saint-Pierre. Saint-Pierre est parti en pleurant. Judas est revenu, a rendu l'argent, a confessé son péché, et puis il est parti, il s'est pendu. Pourquoi Judas a-t-il été réprouvé et Saint-Pierre a-t-il été pardonné? Il n'y a pas de réponse dans l'absolu. La seule réponse, c'est que Dieu fait ce qu'il veut, sachant que chacun fait ce qu'il veut, chaque homme fait exactement ce qu'il veut par son libre arbitre, mais que seuls ceux auxquels Dieu éclaire, dont Dieu éclaire et fortifie le libre arbitre, sont capables de faire des choix qui sont des choix conformes à la nature humaine, à la volonté de Dieu pour la nature humaine, à la finalité surnaturelle de l'homme. Les paroles du Christ dans l'introïte, « Faites retomber le mal sur mes adversaires et dans votre fidélité anéantissez-les, Seigneur qui me protégez », ces paroles ne sont pas à mettre en contradiction avec la volonté salvifique universelle de notre Seigneur. D'une certaine manière, souvenez-vous notre peintre de tout à l'heure, il voudrait bien sauver, il voudrait bien garder toutes ces toiles, mais un certain nombre ne sont pas récupérables. Notre Seigneur, dans l'absolu, voudrait bien sauver toutes ces créatures humaines, et il pleure sur elles, et c'est pour ça que certains pères disent que, en commentant cette parole de notre Seigneur qui dit « il y a plus de joie dans le ciel devant les anges pour un seul qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance », ils disent aussi « il y a de la grande tristesse dans le ciel lorsqu'un homme se perd ». Mais cette tristesse, qui vient de la miséricorde et de la compassion de Dieu, du Dieu créateur pour ses créatures, n'empêche pas que la justice de Dieu, qui d'une certaine manière est infiniment plus, est contraignante, Dieu est plus contraint par sa justice que par sa miséricorde. Dieu est plus contraint d'être juste que d'être miséricordieux. C'est pour cela qu'il est juste et miséricordieux. Les paroles du Christ dans sa passion, les paroles du Verbe divin, outragé par les hommes, sont la cause que certains sont sauvés et certains ne le sont pas. Le déicide, je vais dire le déicide est quelque chose qui est effectivement un péché très grave. Le déicide est le fait de la volonté propre de l'homme déchu. Vous savez, lorsque le semi-pélagien dit « si l'on expose bien aux gens, aux mondains, aux mécréants, que sais-je, tous les avantages du christianisme, et si on combat les ennemis du christianisme pour les empêcher d'influer sur le choix que font les braves foules qui sont dans le fond neutres, comme on le sait, comme tout le monde le sait, alors le christianisme pourrait triompher. » Cette vision-là est complètement fausse, complètement absurde. Regardons-nous nous-mêmes, mes très chers frères, nous qui avons déjà reçu la grâce, nous qui avons déjà eu la grâce de devenir chrétiens, d'une manière ou d'une autre. Combien de fois choisissons-nous de faire le mal, et quelle en est la raison? Parce que cela nous arrange mieux, parce que cela nous plaît mieux. L'homme naturel, l'homme déchu, mis face au plus talentueux des orateurs, au plus talentueux des apologistes, l'homme déchu, dis-je, préservé de l'influence du démon, de ceci, de cela et des autres, ne peut que faire librement le choix de ne pas être sauvé. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, à un certain moment, il va falloir quand même lui dire, et quand je dis quand même, c'est même si on est pélagien, il va falloir quand même lui dire que quand on est chrétien, on ne peut pas totalement faire n'importe quoi. Et là, justement, c'est l'argument rédhibitoire, c'est ce qui dégoûte l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut spontanément qu'en faire à sa propre tête. Quand je dis spontanément, c'est bien l'homme déchu. L'homme déchu, désormais, fait spontanément tout ce qui doit lui nuire. Et tout ce qui doit lui nuire, ça signifie la recherche des plaisirs, la recherche des honneurs, la recherche de toutes les vanités qui peuvent flatter l'homme. C'est le fait d'avoir la satisfaction de n'avoir été influencé par personne dans le choix que je fais. Je vais en enfer, oui, mais c'est moi qui l'ai décidé. Je ne me laisserai pas influencer par Dieu. J'ai envie de faire un choix totalement libre, et même, j'ai envie que mon choix soit totalement libre, et qu'il soit même insensé, ce qui montrera la liberté absolue. Vous savez, les surréalistes disaient, il faut faire des actes absurdes, qui sont des actes de liberté absolue. Il faut sortir dans la rue, tirer sur quelqu'un, c'est absurde, c'est mauvais, mais c'est une liberté absolue. Croyez-vous vraiment que c'est une liberté absolue? Ne croyez-vous pas que vous faites exactement le contraire, faisant exactement le contraire de la volonté de Dieu, vous faites exactement ce qui est nuisible à votre nature, et que vous êtes, donc vous manifestez que vous êtes esclave des puissances les plus infernales, alors même que vous vous imaginez être totalement libre. Lorsque l'homme fait sa volonté propre, il est naturellement conduit au déicide. Et ne dites pas le déicide, c'est surtout certains, et puis c'est pas d'autres, parce que si c'était des Francs, si c'était des Mérovingiens, ou si c'était des Visigoths qui avaient été dans la même situation, c'est bien connu, ils auraient défendu le Christ, etc. Croyez-vous, c'est une autre question, mais croyez-vous vraiment? Ils n'ont même pas été jugés dignes d'être mis dans cette position, donc c'est bien qu'ils auraient fait pire. Donc voyez, mes très chers frères, nous voyons ici que les larmes que le Christ verse sur Jérusalem doivent nous remplir d'une sainte terreur. Dieu déplore la perte de ceux qu'il ne veut pas sauver. Il la déplore sincèrement. Mais parce qu'il est juste, il doit faire des exemples. Et si j'ose dire, parce que l'homme est libre, Dieu doit laisser un certain nombre d'hommes aller jusqu'au bout de la liberté de leur volonté. Faites exactement ce que vous voulez, et le résultat, c'est la damnation. Un auteur nous dit, peu de juifs, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, ont été convertis en comparaison des gentils. Ainsi aussi, peu de chrétiens se convertissent après qu'ils ont fait mourir Jésus-Christ en eux. Vous savez, on entend souvent dire, j'ai perdu la foi. C'est des personnes qui vous disent, ah oui, j'aimerais bien, c'est bien, vous êtes catholique, mais moi, je ne sais pas, j'ai perdu la foi. C'est une chose tout naturelle à l'homme que de perdre la foi, plus précisément que de se débarrasser de la foi. Alors, les gens vont vous dire, c'est parce que quand à l'école, j'ai appris que la Terre tournait autour du Soleil, j'ai appris que les miracles, en fait, s'expliquent par la science, et là, j'ai perdu la foi. Ça vous arrange bien. Trouvez une personne qui déplore véritablement qu'elle ait perdu la foi. Donnez-moi une seule personne, mes très chers frères, de toutes celles que nous connaissons, que vous connaissez, c'est la chose la plus commune du monde, de toutes les personnes qui disent « Ah oui, moi j'ai perdu la foi », trouvez-moi une seule personne qui dise « Je le déplore de tout mon cœur ». Si cette personne l'avait déploré de tout son cœur, elle serait parmi celles qui sont chrétiennes. J'ai perdu la foi. C'est une chose toute naturelle à l'homme. Car sans la foi, dit l'Écriture, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, l'homme déchu n'a qu'une seule chose qui lui répugne, c'est de plaire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu et plaire à soi-même en même temps. Or, comme depuis que je suis déchu, je m'aime moi-même d'une façon spontanée et libre, la foi est quelque chose, quand je la reçois par le baptême, quand je suis un enfant, c'est quelque chose dont je vais m'empresser de me débarrasser, parce qu'elle m'empêche de me plaire à moi-même. Le monde se damne par la volonté propre. Le monde se damne par la cupidité, mes très chers frères, par la concupiscence. Le monde se damne librement, parce qu'il ne peut pas faire autre chose que les choix qui sont contraires à sa finalité surnaturelle. Le monde, je parle des hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ pleure sur la liberté avec laquelle l'homme déchu désire, recherche et embrasse sa damnation. Lorsque le peintre dont nous avons parlé tout à l'heure voit toutes ces toiles maculées de mazout, de peinture noire, il pleure, il dit « tout ceci c'était à moi, tout ceci c'est moi qui l'ai fait, et tout ceci est souillé ». Il pleure, et puis ensuite il les jette. Mais il ne va pas dire « de toute façon c'était moche ». Et c'est lui qui les a faites. Notre Seigneur pleure sur la liberté avec laquelle l'homme se damne. En mettant un comble à son iniquité, l'homme ne fait qu'accomplir sa volonté propre. Aussi, notre Seigneur Jésus-Christ ne parle de cette vengeance qu'il devait, nous dit un auteur, ne parle de cette vengeance qu'il devait tirer des Juifs qu'en pleurant. Il ne s'en vante pas comme d'une chose qui lui était glorieuse. Il n'y a rien de sec dans la véritable charité, et quoi que ce soit un feu, elle ne laisse pas d'avoir des larmes. Notre Seigneur, par un certain côté, devait châtier ce peuple qui avait mis un comble à son iniquité. Et d'un autre côté, cela ne contribuant pas à sa gloire, sous un certain rapport, il n'en tire aucune gloire, en tout cas humaine. Il n'est pas comme quelqu'un qui dit « Ah ben voilà, vous me rejetez, eh bien moi je vais détruire votre ville dans 40 ans ». C'est absolument faux. Parce que notre Seigneur nous montre un exemple divin de charité. Il pleure alors même qu'il doit être, sévère. Alors vous allez dire, qui peut être sauvé? Comment se sauver? Puisque finalement, nous avons compris qu'il ne s'agit pas simplement de dire Dieu fait ce qu'il veut, il choisit ou il ne choisit pas. Mais c'est que lorsque l'homme fait exactement ce qu'il veut, lorsque l'homme fait des libres choix qui ne sont en quelque sorte influencés par personne sinon, mais qui proviennent de sa propre volonté, il se damne infailliblement. Comment être sauvé? Mes très chers frères, l'Église, en ce jour terrible, ne nous laisse pas sans la marche à suivre pour être sauvé. Tout est condensé dans l'oraison. Écoutez cette oraison. Prêtez l'oreille de votre miséricorde, Seigneur, aux prières de ceux qui vous invoquent. Et afin d'exaucer leurs vœux, faites-les demander ce qui vous agrée. Par la raison, nous comprenons qu'en suivant notre amour propre, nous allons à notre ruine. Nous avons les exemples de nos pères dans le désert, que nous rappelle saint Paul dans l'Épître. Nos pères dans le désert ont murmuré, ils ont été idolâtres, ils ont commis toutes sortes d'impuretés, ils ont tenté le Christ, ils ont été châtiés. Eh bien, saint Paul nous dit, tout ceci n'est rien en comparaison, tout ceci n'est qu'une image en comparaison du châtiment qui attend les chrétiens s'ils sont trouvés dans des péchés similaires. Les larmes du Christ doivent nous donner de l'horreur pour nous-mêmes, comme de notre plus grand ennemi. Finalement, pour résumer ce que nous avons dit, sur qui le Christ pleure-t-il? Sur ceux qui font leur volonté propre. Sur ceux que Dieu laisse faire exactement tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est pour cela que nous disons à Dieu, prêtez l'oreille, pateant ores misericordiae tuae domine. C'est très expressif en latin. Déjà, on parle des oreilles de Dieu au pluriel, et pateant ores, c'est-à-dire qu'elles soient grandes ouvertes. Que vos oreilles, que les oreilles de votre miséricorde, Seigneur, soient grandes ouvertes. Au precibus supplicantium, aux prières de ceux qui vous supplient. Et ut petentibus desiderata concedas, afin que vous concédiez, que vous accordiez à ceux qui les demandent les choses qu'ils demeurent, les choses qu'ils désirent, pardon, fac eos, faites-leur, quae tibi sunt placita postulare. Faites-leur demander exactement les choses qui vous plaisent à vous. Voyez comment s'accorde parfaitement le libre arbitre humain et la volonté divine, la volonté infaillible et irrésistible de Dieu. Dieu qui veut nous écouter va nous faire demander ce que lui veut nous donner. Mais il va nous les faire demander, ces choses qui appartiennent à notre salut, comme résultant de notre volonté à nous. C'est bien nous qui allons demander à Dieu toutes les grâces dont nous avons besoin pour être sauvés. C'est bien nous qui allons demander à Dieu les grâces pour faire des efforts, etc. C'est bien nous qui allons demander à Dieu ces choses, et si nous les demandons et qu'elles contribuent à réaliser notre finalité surnaturelle, c'est-à-dire le salut, c'est que Dieu nous a donné de les lui demander et de les vouloir. L'homme que Dieu livre à son seul libre arbitre déchu est incapable de vouloir plaire à Dieu. L'homme auquel Dieu fait ce que Bossuet appelle cette sainte, cette douce violence, il le remet dans la voie de la normalité humaine. Un petit peu comme un médecin qui semble faire du mal à quelqu'un, qui a un genou, une épaule déboîtée, on dirait qu'il se jette sur lui, qu'il le tord de tous les sens. Mais il lui fait une certaine violence pour le rectifier. On ne va pas dire « je préfère avoir l'épaule déboîtée et que le médecin ne me fasse aucune violence ». Je préfère que le médecin fasse la violence selon son art pour avoir l'épaule bien remise. Qu'il nous fasse demander, mes très chers frères, ce qui lui est agréable. Et qu'est-ce qui lui est agréable? Eh bien, entre autres choses, un cœur contrit et un esprit humilié. Bien sûr, c'est le psaume qui dit ceci. Vous ne demandez pas de sacrifice, mais un cœur contrit, un esprit humilié. Il nous demande un esprit de pénitence, un renoncement réel à nous-mêmes, une mortification réelle de notre volonté propre, une mortification réelle de notre concupiscence. Et il nous demande aussi, ne l'oublions pas mes très chers frères, et je termine par ces mots, il nous demande aussi quelque chose. Il nous demande une charité qui pleure la mort des impies. Et non pas une foi qui triomphe méchamment des méchants. Une charité, il nous demande un cœur brisé et contrit, et il nous demande que nous ayons véritablement des sentiments de compassion pour ceux qui se perdent. Que Dieu nous aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.